Avec nous, l'information continue.
RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Les élections européennes auront lieu dans 2 mois maintenant, c'est pour le 25 mai. C'est ce jour-là que les 400 millions d'électeurs des 28 pays membres de l'Union choisiront les 751 membres du Parlement. Et pour la première fois, les europarlementaires pèseront véritablement sur la désignation du président de la Commission européenne. Tudor Tepenhague va souvent, très régulièrement, à Strasbourg, où il couvre les sessions plénières du Parlement européen. C'est un endroit unique, un complexe architectural très grand, parfois même on a du mal à s'y retrouver, on se perd, on y croise beaucoup de visiteurs. Il y a aussi tous ceux qui travaillent dans ces bâtiments et qui parlent de nombreuses langues. C'est une véritable tour de Babel. Nous écoutons maintenant le reportage de Tudor que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
« 8h30 du matin à Strasbourg, le tramway s'approche des institutions européennes. Sur l'esplanade devant le bâtiment Louise Weiss, les premiers groupes de visiteurs sont déjà là. Dimitri Tenezakis est architecte, chef de l'unité de projet immobilier.
Un groupe de visiteurs voit d'abord, en arrivant au bâtiment de Louise Weiss, la cour d'entrée, la cour de la tour, qu'on appelle l'Agora, qui est une cour, je dirais, majestueuse. Elle fait 12 étages de hauteur et c'est un espace solennel. Les entrées différentes pour les députés, visiteurs, fonctionnaires et journalistes sont distribuées sur les périmètres de cette cour.
À l'intérieur du bâtiment, je retrouve Catherine Trottmann, chef de la délégation socialiste française au groupe parlementaire des socialistes et démocrates. Elle a été maire de Strasbourg et le Parlement lui doit beaucoup.
J'ai souhaité lancer un concours public pour choisir l'équipe d'architectes. Je suis très attachée à ce bâtiment. Je peux dire qu'il m'a provoqué beaucoup d'insomnie parce qu'il était techniquement difficile. Il a plusieurs défis. Bâtiment de grande hauteur, une plateforme à hauteur de celle de la cathédrale. Il s'est inscrit dans le paysage avec une architecture très moderne. C'est une architecture qui, avec le bâtiment du Conseil de l'Europe, crée le triangle entre les fondements de la démocratie européenne, les droits de l'homme, et les deux assemblées parlementaires, le Conseil de l'Europe et le Parlement européen.
Quelqu'un veut intervenir pour la question ?
Les visiteurs sont nombreux, souvent jeunes, et ils viennent de partout.
Amine El Khatib, je viens du Maroc. D'abord, je trouve que le Parlement européen, c'est une institution très belle à voir. Et je trouve que c'est un bâtiment qui est très complexe. En effet, c'est un bâtiment où toutes les institutions de l'Europe convergent et qui est hyper intéressant pour une vision européenne plus claire.
Une vision européenne à une échelle en tout cas impressionnante, Dimitri Tenezakis.
L'échelle du bâtiment est assez impressionnante. Déjà, on le voit en arrivant par avion, en survolant la ville. Le bâtiment principal qui est le bâtiment Louise Weiss, il fait 220 000 m² à lui seul. Il se compose de deux parties, une tour de bureau de 1150 bureaux à peu près et le bâtiment qui abrite l'hémicycle qui est le cœur du Parlement. C'est une énorme salle de 863 places assises, 863 pupitres plus 650 places dans la galerie des visiteurs à l'étage.
Une fois à l'intérieur du bâtiment principal, devant l'hémicycle, les visiteurs se promènent dans la rue Jardin, une véritable artère piétonne, vitrée, plantée, d'une longueur de 200 mètres. De part et d'autre, des coursives conduisent aux différentes salles de réunion, 39 au total, ayant chacune de 40 à 350 places. Laetitia, étudiante en première année de droit à Paris, est très impressionnée.
En effet, c'est la première fois que je visite le Parlement européen. Le décor est vraiment merveilleux. On voit bien que chaque État membre est représenté avec les drapeaux. Et j'aime beaucoup le bâtiment. Il est très agréable et on a envie d'y rester.
Alors, on n'a pas fini la discussion d'ailleurs avec le BEREC.
Expliquer le fonctionnement du Parlement fait partie du quotidien des députés européens. Et pour certains d'entre eux, c'est aussi une véritable passion. Bernadette Vergniaud fait partie de la délégation des socialistes français.
Ce matin, j'ai reçu un groupe de jeunes qui ont un handicap mental léger et moyen, qui n'imaginaient pas ce qu'était le Parlement européen. Demain, je vais recevoir des étudiants juristes linguistes de mon université à Poitiers. Le débat sera différent. Et quand ils sortent tous, quel que soit leur niveau et leur endroit où ils sont nés, où ils vivent, ils sont vraiment émerveillés par ce projet. Ils posent des questions. Comment peut-on aller plus loin ? Et moi, quand je donne envie à des jeunes de participer à ce projet, je me dis, c'est là Le travail du député européen, c'est aussi donner cette envie d'Europe que nous ont donné les pères fondateurs.
Et les résultats sont là. Parmi les jeunes visiteurs du Parlement, beaucoup sont europhiles.
Brian, je serai pro-européen. Je vois depuis l'accession de mon pays, l'Irlande, à l'UE, ça fait beaucoup de choses pour le pays. Je pense que pour lutter contre les grosses puissances mondiales, on a besoin de l'UE. Les États membres ont besoin de l'UE pour progresser, pour développer leurs économies internes, la vie des citoyens. Oui.
Mais d'autres jeunes Européens venus visiter le Parlement à Strasbourg ont une vision plus nuancée de l'Union Européenne.
Susanna, je fais les sciences politiques. Le taux d'abstentionnisme est le plus grand en Slovaquie en fait. Et on regarde l'Union Européenne comme une institution des eurocrates un peu distants de la vie quotidienne. On sait qu'on y gagne beaucoup et donc ça vaut la peine d'y travailler. Mais c'est surtout qu'on critique l'Union Européenne.
Souvent, ceux qui sont venus de loin, parfois même de très loin, sont aussi ceux qui s'intéressent le plus aux institutions européennes, à l'image de cet étudiant chinois.
Je m'appelle Lo Xiaogang. Je suis trop content de visiter ici pour savoir plus, pour savoir l'Europe. Et puis ça me plaît pour aider mes études et puis approfondir mes connaissances du droit européen. C'est vraiment super pour moi.
Mais comment travaille le député européen à Strasbourg? J'ai rencontré dans son bureau Jean-Pierre Audy, le chef de la délégation française UMP, qui fait partie du groupe conservateur du Parti populaire européen.
Alors, à Strasbourg, la journée de travail, elle est surtout rythmée par les votes qui se déroulent à la mi-journée. Et donc, dans la matinée, nous avons des réunions soit de groupes politiques, exceptionnellement de commissions techniques, pour justement préparer ces votes. Et dans l'après-midi, nous préparons les votes du lendemain. Et vous avez une multiplicité de salles de réunion dans lesquelles ont lieu, j'allais dire, ces conciliabules, ces ajustements politiques de dernière minute. Et puis, brutalement, à midi, vous voyez près de 800 parlementaires qui viennent en séance plénière tous voter.
L'ambiance est parfois survoltée lors des votes et dans l'hémicycle, on peut entendre une multitude de langues.
Τροπολογία 15, έναρξη, λήξη, απορρίπτεται.
Die aktuelle Situation ist bekanntlich äußerst unbefriedigend.
Familias con niños que tienen que tener los carritos hasta el embarque y después a la salida.
Práva cestujících v letecké dopravě jsou regulována i další.
Have been changed from the Commission proposal, which could lead to some unintended consequences for passengers.
Pour en savoir un peu plus sur la façon dont on arrive à communiquer au sein du Parlement européen, j'ai quitté le bâtiment Louis Weiss et j'ai emprunté la passerelle qui traverse le canal et mène au bâtiment Winston Churchill. C'est là que j'ai retrouvé Olga Kozmidou, directrice générale de l'interprétation. Son bureau est un havre de paix.
Les langues officielles au Parlement européen sont au nombre de 24. Mais depuis le traité de Lisbonne, pour un grand nombre de réunions, nous utilisons en plus parfois le russe, parfois l'arabe, le chinois. Nous avons un nombre d'interprètes internes entre 300 et 350. On ajoute à chaque fois les nombres externes, plus souvent connus sous le nom de freelance, en fonction de besoins. À Strasbourg, où nous avons le plus grand nombre de réunions, nous avons 1000 interprètes présents, c'est-à-dire plus d'interprètes que de députés.
Retour au bâtiment Louis Weiss, cette fois-ci au bar de la presse. C'est un des endroits stratégiques du Parlement qui est doté en tout de 3 restaurants et 4 bars. L'ambiance y est plutôt décontractée, même si il y a beaucoup de travail.
Maxime, ouais, je crois que je fais à peu près 350 à 400 cafés par jour. Et après, il y a les plats et tout. Commandes, je sais pas combien ça fait, mais ça doit faire 600, 700 commandes peut-être. C'est sympa, on voit un peu de tout. Après, moi, c'est surtout financier en fait. Ça me permet de compléter mon travail à côté. Et voilà, puis ici, je suis responsable, alors du coup, je gère le bar.
Et c'est au bar de la presse que j'ai rencontré Stephen Clark, de la Direction des relations avec les citoyens, coordinateur de la campagne d'information sur les élections européennes du mois de mai 2014.
Nous avons plusieurs façons de communiquer avec le grand public. Et à Strasbourg, prochainement, nous avons installé un cinéma 360 degrés. On présente le travail du Parlement dans un film d'une douzaine de minutes. Et il y a un jeu de rôle, notamment pour les écoliers, disons vers les 15-16 ans, qui est un très grand succès, qu'on va mettre à Strasbourg aussi. Et puis, disons, l'autre côté de mon travail, c'est un peu la communication, disons, distance, via l'Internet. Donc les réseaux sociaux, le site web du Parlement, toutes les techniques nouvelles qui commencent à exister. Et puis, bon, les méthodes un peu plus traditionnelles, genre les affiches, les brochures, les événements. Le contrat principal pour la campagne sur les élections compte 16 millions d'euros. Par rapport à la tâche, c'est pas beaucoup.
Direction la salle de presse du Parlement, chaque session plénière est suivie par 200 à 250 journalistes, dont la moitié environ fait le déplacement à Strasbourg.
Cyril Douillard, journaliste à Euradio Nantes. Euradio Nantes, c'est une radio locale européenne. On vient tous les mois, ici au Parlement européen, couvrir la session plénière. C'est une manière pour nous de suivre l'actualité européenne et de voir aussi ce qui peut impacter les territoires, notre territoire, celui de la région des Pays de la Loire, mais également ce qui peut impacter les citoyens, le consommateur notamment. Cette semaine, nous avons parlé de l'union bancaire, expliquer l'union bancaire. On a également réalisé une émission citoyen et responsable sur la stratégie européenne pour les sans-abri. De l'Union européenne jusqu'aux sans-abri, on est large en éventail. Et en même temps, voilà, c'est ça l'Europe.
Ce jour-là, le président du Parlement européen, le social-démocrate allemand Martin Schulz, recevait avec les honneurs le président de la République italienne, Giorgio Napolitano. Après les hymnes sur le parvis, Giorgio Napolitano et Martin Schulz sont allés s'entretenir dans le bureau de ce dernier avant de se diriger vers l'hémicycle en empruntant un circuit réservé aux hôtes de marque, l'architecte Dimitri Tenzakis.
Il y a aussi des ascenseurs spéciaux qui mènent des bureaux du président derrière les pupitres du président dans la salle de l'hémicycle, qui conduisent donc au salon protocolaire qui se trouve au-dessus de la salle, au niveau 6 et 7. Ce sont des espaces impressionnants, vitrés, très lumineux, qui ont une vue panoramique sur Strasbourg et sur les bâtiments des autres institutions de Strasbourg qui sont proches du Parlement, c'est-à-dire les bâtiments du Conseil de l'Europe et de la Cour des droits de l'homme.
Caro Presidente Napolitano, caro Giorgio, bentornato al Parlamento Europeo.
Giorgio Napolitano a demandé dans un vibrant plaidoyer un nouveau souffle pour le projet européen. Les grands discours font partie, aux côtés d'autres moments forts, des souvenirs de Catherine Trottmann au Parlement de Strasbourg.
Les moments dont je me souviens, ce sont quelques très grands discours, dont celui de François Mitterrand, le dernier de ses discours, bien sûr, qui nous avait beaucoup émus. Il y a des moments aussi qui sont très surprenants, comme un jour où il y avait une bataille rangée entre les anglo-saxons qui défendaient les taxes sur le whisky, les Français et les Méditerranéens qui défendaient le vin, et puis il y avait aussi les pays de la bière, et donc entre les pays de la bière, les pays du vin et les pays des alcools forts, ça râlait de partout. Et au bout d'un moment, plusieurs me sont tombés dessus en me disant « Et vous ?» Alors je leur ai dit en rigolant « Eh bien, si le Parlement européen est à Strasbourg, il y a une raison. C'est qu'en Alsace, on fait du vin, on fait des alcools forts et on fait de la bière. » Voilà.
Le Parlement s'intéresse beaucoup au budget de l'Union européenne et c'est dans l'ambiance animée du bar des cygnes que j'ai retrouvé Alain Lamassoure, membre de la délégation française au Parti populaire européen et président de la commission du budget.
L'Union européenne a un budget pour financer les politiques communes. L'ordre de grandeur est de 140 milliards d'euros. Ce budget est consacré pour un gros quart à la politique agricole, un autre gros quart à la politique de cohésion régionale pour venir aider les régions en retard de développement par rapport aux autres et équiper les régions. Un budget qui pour le reste est consacré aux investissements d'avenir, à la recherche, aux échanges universitaires comme Erasmus et à l'action extérieure, notamment à la coopération aux pays en développement et à l'aide humanitaire. Et ce budget est voté par le Parlement, élu par les citoyens et par une majorité des 28 ministres du budget.
Il y a souvent des frictions entre le Parlement et les autres institutions européennes, la Commission et le Conseil, qui ont parfois tendance à contourner les décisions des eurodéputés. Parmi ces derniers, le coprésident du groupe écologiste, Daniel Cohn-Bendit, est un des plus virulents.
Si ce Parlement n'arrive pas enfin à faire entendre la raison au Conseil, plus jamais on nous prendra au sérieux.
Pour lui, le mode de désignation du président de la Commission est au cœur des élections européennes à venir.
Le principal enjeu, c'est de ne pas laisser au Conseil l'initiative pour la nomination de la présidence de la Commission. Il faut que le futur président trouve au Parlement européen d'abord une majorité avant d'être, disons, plébiscité par le Conseil européen. Aujourd'hui, les citoyens, à travers cette élection européenne, peuvent avoir une influence sur les prochaines nominations de la présidence de la Commission et donc sur le contenu de la politique de la Commission.
Guy Verhofstadt, le chef du groupe des libéraux au Parlement européen, réfléchit aux dangers que comportent les élections européennes, mais il pense aussi que des changements bénéfiques peuvent avoir lieu. Je l'ai rencontré devant l'hémicycle.
Oui, je sais bien que tout le monde dit « Ouais, on va voir la victoire des eurosceptiques, des nationalistes et populistes ». Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'alternative est en train de se créer. L'alternative pour les populistes et les eurosceptiques. C'est-à-dire, c'est un mouvement, c'est une position qui dit que, voilà, c'est vrai, il faut une autre Europe parce que la crise a été mal gérée, mais l'autre Europe ne consiste pas à retourner en arrière vers les anciens états-nations de l'Union européenne, mais de plutôt faire des réformes radicales à l'intérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire créer cette union économique, budgétaire et bancaire dont on a besoin le plus vite possible.
Le Parlement européen à Strasbourg commence sa marche. Un reportage de Tudor Tepeneag. Réalisation Marc Minatel.
Tudor Tepeneag, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors oui, hein, c'est un endroit hors du commun, ce siège du Parlement européen à Strasbourg. Il peut nous faire penser à une image de l'Union européenne à échelle réduite.
Absolument. Il y a une charge symbolique très forte et en même temps des sensations très palpables. Quand on arrive au Parlement, souvent à bord du tramway qui dessert le quartier des institutions européennes, on traverse le parvis, là où il y a les drapeaux des pays membres de l'Union, là où le président du Parlement, Martin Schulz, a reçu, vous l'avez entendu, le président italien Giorgio Napolitano. Puis on pénètre par une espèce de porte étroite, rapportée à l'échelle de l'ensemble, dans la cour intérieure du bâtiment Louise Weiss. Là, on a une cour monumentale et sous les arcades se trouvent les entrées, celles réservées à la presse, celles pour les parlementaires, celle par où rentrent les visiteurs et ainsi de suite.
Alors, l'intérieur de ce bâtiment est tout aussi complexe et j'ai eu l'impression, hein, en écoutant votre grand reportage, que parfois on peut s'y perdre comme dans un labyrinthe.
C'est une remarque qui ne me surprend pas. C'est l'impression que j'ai aussi à chaque fois que je vais à Strasbourg. Et puis cette comparaison m'est revenue de plusieurs jeunes visiteurs qui constituent, il faut bien le dire, le cœur vivant de cette foule présente dans le bâtiment. Il y a l'hémicycle, bien entendu, conçu pour pouvoir accueillir plus de 860 parlementaires, mais il y a aussi de très nombreuses salles de conférences de différentes tailles, des espaces et des équipements pour la presse, 3 restaurants et 4 bars, sans parler des 1500 places de parking qui ne sont pas visibles pour le public, tout comme n'est pas visible un tunnel qui passe sous le canal vers l'autre bâtiment Winston Churchill, un tunnel qui sert à transporter par un système de chariots automatisés les dizaines de milliers de pages de traductions écrites qui sont faites à Strasbourg. Vous l'avez entendu, le Parlement a 24 langues officielles et le travail de près de 1000 interprètes est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'institution pendant les sessions parlementaires.
Alors justement, je me demandais, Tudor, comment arrivent à se comprendre les 750 députés qui viennent de 28 pays différents ?
Eh bien, Laurent, chacun parle en général plusieurs langues, au moins l'anglais, et puis il y a l'aide précieuse des interprètes et des traducteurs. Mais au-delà de la nécessité de se faire comprendre, comment arrive-t-il à s'entendre politiquement, tellement les intérêts sont divergents entre les différents pays, du nord, du sud, entre les grands et les petits pays, et bien sûr, entre les différents groupes politiques. Alors, plusieurs parlementaires européens m'ont expliqué qu'à Strasbourg, il y a une véritable culture de la négociation et du compromis, dans le bon sens du terme, et qu'ainsi, on arrive à se mettre d'accord sur les résolutions à voter. Une fois votées, ces résolutions doivent, ou plus précisément, devraient être prises en compte par le Conseil européen, voire transposées en pratique par la Commission européenne. En tout cas, on sent bien que les eurodéputés veulent peser davantage sur les institutions européennes. Ils pensent avoir une légitimité démocratique et ils rappellent volontiers qu'ils ont été élus, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les membres de la Commission de Bruxelles.
Ce sera le mot de la fin. Tudor Tepeneag, merci beaucoup.
Merci Laurent.
Bonne journée.